Laudetur Jesus Christus.
Voix de miséricorde. Présenté par Cyprien Viette.
Alors que nous sommes au milieu de l'année de la miséricorde, ce 13 mai marque à la fois la fête de Notre-Dame de Fatima et le 35e anniversaire de l'attentat contre Jean-Paul II. Le saint pape polonais, rempli de piété mariale et de confiance en la miséricorde divine, avait attribué sa survie à l'intercession de Notre-Dame de Fatima, faisant remarquer que les coups de feu avaient été tirés à l'heure précise des premières apparitions à Fatima 64 ans plus tôt. Le souvenir de cet événement qui avait bouleversé la planète reste très vif. Il nous donne l'occasion de parler du rôle de Marie comme médiatrice et ambassadrice de la miséricorde divine qui guérit les corps et les âmes. Nous en parlerons avec François Venne, ancien responsable de la communication des sanctuaires de Lourdes et auteur du livre « Priez 15 jours avec les apparitions de Marie ». Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Voix de Miséricorde, notre émission spéciale consacrée au jubilé de la miséricorde.
In piazza San Pietro erano le 17:17. Il Papa aveva compiuto il primo giro della piazza.
Il était 17:17 sur la place Saint-Pierre. Le Pape avait fait un premier tour de la place à bord de la Jeep blanche. Il se trouvait à l'extrémité droite de la place Saint-Pierre en regardant la façade de la basilique. La place était remplie de pèlerins. Le Pape avait salué les fidèles et il avait embrassé beaucoup d'enfants. Alors que le Pape faisait ses gestes habituels d'affection, de familiarité avec les fidèles qu'il acclamait, de manière imprévus sont partis de la foule quelques coups de pistolet. Il n'y avait eu aucun signe avant-coureur. Voilà, regardez maintenant, c'est arrivé. L'attentat s'est produit. Un ou deux coups de pistolet ont atteint Jean-Paul II. Deux femmes ont aussi été blessées. La Jeep du pape s'est éloignée rapidement. À bord, il y avait son secrétaire et d'autres personnes qui ont cherché à le soutenir.
C'était donc le 13 mai 1981 sur la RAI, la télévision publique italienne. Les images du pape Jean-Paul II qui, deux ans et demi après son élection, tombait sous les coups de feu d'un tueur professionnel avaient bouleversé le monde. Le pape polonais transportait l'hôpital Gemelli dans un état critique, allait toutefois survivre et poursuivre sa mission de souverain pontife durant encore près d'un quart de siècle. Dès le dimanche suivant, le 17 mai 1981, il reprenait la parole depuis son lit d'hôpital pour dire qu'il avait pardonné à son agresseur et pour remercier les fidèles pour leurs prières.
So che in questi giorni, e specialmente in quest'ora del Regina Cedi, siete uniti con me. Vi ringrazio commosso per le vostre preghiere e tutti vi benedico. Totus tuus ego.
Je sais qu'en ces derniers jours, et particulièrement en cette heure du Regina Caeli, vous êtes unis avec moi. Très ému, je vous remercie pour toutes vos prières. Je vous bénis tous. Totus tuus ergo sum. En répétant sa devise Totus tuus ergo sum, je suis tout à toi, une parole tirée des écrits de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Jean-Paul II rappelait son ancrage dans la confiance en Marie et en la miséricorde de Dieu. Le pape polonais, en se réveillant, avait pris conscience du fait que sa survie relevait du miracle. Un miracle attribué à Notre-Dame de Fatima, puisque l'attentat coïncidait parfaitement à la date et à l'heure des apparitions de Fatima en 1917. Jean-Paul II avait mis toute sa confiance en Marie. François Venne, ancien responsable de la communication des sanctuaires de Lourdes et auteur du livre « Priez 15 jours avec les apparitions de Marie » paru aux éditions Nouvelle Cité, nous redit le sens de ce miracle du 13 mai 1981, alors que toutes les conditions matérielles étaient réunies pour que le pape soit effectivement assassiné.
Ali Aksha, quand il a tiré, après il a dit qu'il n'a pas compris du tout pourquoi le pape n'était pas mort, parce que la manière dont il avait tiré, normalement par rapport à son savoir-faire, le pape ne devait pas s'en sortir. Donc il y a vraiment une protection céleste dont a bénéficié le pape Jean-Paul II, qui était tout entier consacré à Marie. Et je crois que c'est un encouragement pour nous tous, au-delà de ce fait historique, à nous consacrer nous-mêmes aussi à Marie, pour faire en sorte que le mal qui nous atteint profite au bien. J'ai découvert dans les textes du Concile Vatican II qu'on parle de la passion de l'Église à travers les souffrances petites ou grandes. C'est la passion du Christ qui continue dans l'histoire et donc avec elle, en même temps, la promesse d'une transformation de l'univers entier, de la réintégration, j'allais dire, de l'humanité, du cosmos, au cœur de la Trinité et pour l'éternité. Et ça, c'est un grand bonheur et je pense que c'est le message de Fatima, il est là. Il est dans cette espérance qu'en se consacrant à la miséricorde divine, plus qu'à Marie, puisque elle, ce qui l'intéresse, c'est qu'on se consacre au cœur de son Fils, et qu'à partir du moment où on vit cette consécration à la miséricorde divine, on permet à Dieu de transformer toutes nos morts en résurrection. Nos ténèbres deviennent lumière, et la grande joie du message de Fatima, elle est là. C'est la grande promesse pour chacun de nous, et c'est aussi le message de ce pontificat du pape François, je crois, et c'est pour ça qu'il a voulu cette année de la miséricorde, 10 ans avant le jubilé qui était prévu. Il a voulu un jubilé d'urgence, j'allais dire, parce qu'il y a urgence à porter la lumière, et comme disait saint François d'Assise, là où sont les ténèbres, que je mette la lumière, c'est notre mission à chacun.
Ce mois de mai, mois de Marie, marque donc le centre du jubilé de la miséricorde qui a commencé en décembre dernier et s'achèvera en novembre. Une année qui est aussi mariale dans une certaine mesure puisque Marie est une médiatrice et une ambassadrice privilégiée de la miséricorde de Dieu. Et c'est plus globalement tout le pontificat du pape François qui s'articule autour de Marie, comme le rappelle François Venn qui a développé cet aspect du pontificat du pape argentin dans son livre « Merci François » paru récemment aux presses de la Renaissance.
On pourrait parler presque d'une révolution mariale au cours de ce pontificat de la miséricorde, parce que le pape veut nous faire comprendre, j'y reviens, mais je crois que c'est essentiel, que l'Église, c'est d'abord le corps du Christ, c'est-à-dire que Marie, de la même façon qu'elle a donné naissance au Christ, elle continue à donner vie aux membres du corps du Christ. La révolution en question, elle consiste à mettre l'Évangile en pratique, puisque Jésus, dans l'Évangile, il dit qui sont mes frères, qui est ma mère, c'est ceux qui mettent l'Évangile en pratique. Donc le pape, il nous invite à travers cette figure de Marie, disons non pas à l'adorer, mais à la prendre pour modèle et à vivre à ses côtés cette incarnation du Verbe de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Marie, c'est celle qui a accueilli l'Esprit-Saint. Et quand une âme accueille Marie, quand on est proche d'elle, l'Esprit-Saint se précipite dans l'âme de celui qui accueille Marie. Et c'est aussi ce que le pape François veut nous faire comprendre.
Il y a eu une multitude d'apparitions de Marie jusque dans des époques récentes, des apparitions reconnues, validées par l'Église et d'autres qui sont encore en cours d'examen. Parfois, notamment dans le cadre de Notre-Dame de Fatima, qui est fêtée ce 13 mai, certaines paroles de la Vierge font peur. Il y a des images de violence, de guerre. En quoi ces apparitions de la Vierge sont aussi, tout de même, sur le fond, une manifestation de la miséricorde de Dieu?
Mais c'est vrai que Marie, elle apparaît partout dans le monde, à différentes époques, comme si elle nous accompagnait, elle accompagnait l'humanité sur le chemin de l'histoire. Ce qui importe, partout où Marie apparaît, c'est d'essayer de mettre en pratique l'Évangile, parce que c'est ce qu'elle demande au fond, c'est de se convertir, c'est-à-dire de faire acte d'humilité pour demander pardon, pour aussi accueillir le pardon de Dieu. Et c'est dans la mesure où on accueille cette miséricorde divine, dont elle est un petit peu l'ambassadrice partout où elle se manifeste, que nos relations peuvent changer. Il y a une sorte de guérison des relations interpersonnelles dans les lieux d'apparition, qui est le vrai miracle au fond, au-delà du miracle physique. C'est le miracle de ces réconciliations entre les personnes qui peuvent, de proche en proche, guérir l'humanité de toutes les haines et de tous les égoïsmes. Ce qui me touche beaucoup partout où elle apparaît, c'est cette douceur avec laquelle elle parle à des gens simples, souvent en marge, disons, des institutions ecclésiastiques, pour rejoindre vraiment le peuple de Dieu dans toute sa réalité et pour encourager les plus petits à se sentir responsables de l'avenir du monde. Parce que souvent, on croit que quand on n'a pas de responsabilité, disons politique ou autre, on est incapable de faire changer le cours de l'histoire. Et Marie, là où elle apparaît, en choisissant des personnes humbles, simples, disons sans pouvoir humain, elle donne, disons, à chacun la conscience de sa responsabilité dans le cours de l'histoire, quel que soit son âge, quel que soit son statut social. Donc c'est une valorisation de la personne et de sa vocation qui peut, à travers un oui prononcé, changer bien des choses autour de soi.
Et c'est ainsi que se termine ce nouveau numéro de Voix de Miséricorde. La semaine prochaine, nous aborderons la dimension réconciliatrice de Marie. Sur ce, bon week-end et bonne fête de Pentecôte à toutes et à tous.